Chapitre 24. Les couches de neige s'accumulaient sur un paysage ensommeillé dont les vallonnements évoquaient les silhouettes de rêveurs endormis. Les squelettes des arbres figés par l'hiver formaient un tableau monochromatique avec les buissons persistants aux feuilles cotonneuses dans la lumière spectrale de l'immensité neigeuse. Au volant de sa jeep, le shérif Luther Tillman conduisait d'un air pensif, de plus en plus persuadé que l'attentat de l'hôtel Veblen n'était pas le résultat d'un simple moment de folie, mais l'annonce d'une catastrophe qui venait mettre en péril une existence heureuse. La maison de plain-pied de Cora Gunderson, avec sa façade en clin lové dans un creux de terrain habillé de blanc, apparut graduellement à la lueur des phares. Il s'engagea sur l'allée qui n'avait pas été dégagée, fit le tour du bâtiment et se gara derrière la jeep de Rob Stassen. Les dernières vapeurs d'échappement s'effilochaient dans la nuit lorsque Luther vit son adjoint descendre de voiture et claquer sa portière. Luther descendit à son tour. En rejoignant Rob, il remarqua la présence du teckel à poils longs de Cora sur le siège de la jeep, le museau collé à la vitre. « Dixie doit avoir faim », remarqua le shérif. « Je me suis occupé d'elle », dit Rob, un ancien de la police militaire de la Navy de 36 ans, qui avait décidé, après 10 années de service, de se consacrer au maintien de la paix dans sa ville natale. « J'ai trouvé ses croquettes, mais elle ne voulait rien savoir. J'ai dû la forcer. La malheureuse passe son temps à gémir. On dirait qu'elle sait. » « Les chiens savent », acquiesça Luther. « Qui aurait cru ça de Cora? Je n'en reviens pas. » Luther se dirigea vers la véranda en faisant crisser la neige sous les semelles de ses bottes. D'une façon ou d'une autre, la Cora d'aujourd'hui n'était pas celle qu'on connaissait. Vous voulez dire qu'elle avait une tumeur au cerveau ou un truc du style? On ne saura jamais, faute de pouvoir autopsier le corps. Les marches de la véranda étaient dégagées, et Luther s'approcha de la porte. Ils n'ont même pas posé de scellé?
Ils ont fait ça dans les règles, jusqu'à l'arrivée d'un certain Booth Hendrickson. La minute d'après, il repartait la queue entre les jambes.
« Qui est ce type ?»«
Un ponte du ministère de la Justice qui a tout de suite pris la situation en main. »«
Il lui a demandé sa carte ?»«
Il a prétendu qu'il n'en avait plus. Allez savoir. Son badge paraissait vrai, et les gars de Quantico le connaissaient. »«
Quel prétexte leur a-t-il donné pour tout arrêter ?»«
J'ai pas assisté à leur conversation, shérif. Je suis qu'un flic de supermarché aux yeux de cet Hendrickson. » Il a verrouillé la maison et emporté la clé. Si vous avez envie de jeter un coup d'œil, il faudra forcer la porte d'entrée ou trouver une fenêtre mal fermée.
Cora avait caché une clé au cas où elle s'enfermerait dehors par mégarde.
Luther récupéra le long de la façade un balai aux poils figés par le froid et nettoya la neige collée à ses bottes.
« Vous ne risquez pas de salir la maison plus que, shérif. »
« Peut-être, mais autant éviter d'en rajouter, Robbie. »
Stassen se servit de la brosse à son tour, tandis que son chef récupérait la clé de rechange, dissimulée au-dessus du linteau. Il déverrouilla la porte et chercha des doigts l'interrupteur. La cuisine était en chantier. Des flaques de neige fondue marbraient le linoléum et les empreintes de semelles des enquêteurs dessinaient un peu partout des tableaux abstraits. Les placards étaient restés ouverts, le contenu de la poubelle avait été déversé par terre avant d'être fouillé, sans que personne ne songe à le ramasser ensuite. La table, la porte du réfrigérateur comme celle des placards étaient couvertes de poudre noire pour la recherche d'empreintes. Les gants en caoutchouc dont s'étaient servis les enquêteurs pour ne pas contaminer les lieux avaient été jetés par terre ou abandonnés sur le plan de travail.
« Tu trouves cette porcherie digne du FBI ?» s'étonna Luther.
« On n'est pas au cinéma, shérif. »
C'est à se demander s'il recherchait des indices ou bien s'il voulait les effacer.
Dieu du ciel, vous avez vraiment dit ça?
Luther s'approcha de la petite table sur laquelle était resté ouvert un épais cahier à spirale.
Je reconnais l'écriture de Cora. Je n'ai jamais connu personne qui écrivait aussi bien.
On dirait un texte imprimé, approuva le jeune adjoint.
L'enseignante avait utilisé uniquement la page de droite pour les dernières notes qu'elle avait prises. Celle de gauche était vierge. Parfois la nuit, parfois la nuit, parfois la nuit.
La phrase se répétait à l'infini. Comme sous la plume d'un autiste, les pensées bloquées sur le sillon rayé d'un vieux 33 tours.
Luther feuilleta les pages suivantes, découvrant inlassablement la même phrase, jusqu'à ce que la pensée de Cora donne l'impression de se débloquer brusquement.
Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut, je me réveille en sursaut, je me réveille en sursaut.
Cora poursuivait sur sa lancée en noircissant les feuilles de son écriture d'une netteté presque inquiétante. Lorsque Luther découvrit une phrase inédite 8 pages plus loin, il sentit Rob Stassen frissonner à côté de lui.
« J'en ai la chair de poule, »
murmura l'adjoint.